Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur graphite94.9 ou graphite.net sur le web. Donc je suis Stéphane, responsable du cours IS03 Low Technicisation et Numérique à l'Université de Technologie de Compiègne. Je suis dans les studios de graphite avec Léonard Dokken, Elena et Nils. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Eh bien, c'est la dernière présentation de la journée, même de l'année. Présentation donc des projets qui ont été menés dans le cadre du cours Low Technicisation et Numérique. Donc, ce projet s'appelle The 50-Year Project. L'objectif va être de nous parler d'un ordinateur qui pourrait durer 50 ans. On a parlé avant aujourd'hui de médias sociaux qui parlent de soutenabilité. On a parlé de cinéma convivial, on a parlé de sites web permettant de faire de l'évaluation d'autres sites web et puis d'initiatives autour de la low technicisation dans le cadre des mairies. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces émissions ainsi que celles de la semaine précédente sur le site, à partir du site lonium.fr d'ici quelques jours. Mais donc, pour cette dernière émission de l'année, je passe la parole à Léonard Dokken pour nous parler donc de la possibilité de construire un ordinateur qui durerait 50 ans.
Et si on pouvait créer un ordinateur qui dure 50 ans? C'est la question folle à laquelle les UTC1, le semestre dernier, ont tenté de répondre et ont réalisé un projet autour de cette question. Nous sommes dans la continuation de ce projet et on va vous le présenter. Alors, pourquoi on peut se poser cette question? La plupart des chercheurs ont remarqué que, pour la plupart des consommateurs, ils remplacent leur ordinateur tous les 4 à 5 ans, voire encore plus souvent. Et si on pouvait éviter ce gâchis? Nous avons tout d'abord réfléchi à comment modifier les ordinateurs eux-mêmes. Mais, au fur et à mesure de nos recherches, on s'est rendu compte que cela n'était pas du tout suffisant pour atteindre cet objectif, et qu'il serait aussi souhaitable de créer de nouvelles infrastructures pour accompagner le nouvel ordinateur qui dure 50 ans. Ainsi, l'objectif, disons, final de notre projet est de créer les premières ébauches d'un site web présentant nos idées afin d'allonger la durée de vie d'un ordinateur, ainsi que les bonnes pratiques d'entretien. Alors, on va commencer par l'état de l'art. Il va s'agir donc de nos résultats de nos recherches et des conclusions clés. Donc, tout d'abord, un chiffre clé, tiré d'un rapport de recherche allemande sur les effets écologiques des composants d'un ordinateur. Un ordinateur portable, d'une durée de vie moyenne de 5 ans, on va dire, aurait un impact sur l'environnement estimé entre 200 et 400 kg de CO2 durant tout son cycle de vie. C'est énorme, c'est presque autant qu'un vol aller-retour Paris-Rome. Vous imaginez bien que l'impact que cela peut avoir à l'échelle des millions et des millions d'ordinateurs remplacés chaque année est énorme. De plus, d'après un article de l'ADEME, qui est donc l'agence de la transition écologique française, qui présente une étude menée par l'hôtelier en 2018, d'autres facteurs sont à prendre en considération. Acidification des océans, effet respiratoire, épuisement des ressources, etc., etc. Pour vous donner une idée, en achetant un nouvel ordinateur, vous contribuez à la fois à la diminution de la population de poissons, à rendre l'air autour de vous encore moins pur et à l'épuisement des ressources minérales et fossiles, dont l'exploitation est très dangereuse pour l'environnement. Et en effet, sur ce dernier point, on va vous présenter un extrait d'une vidéo YouTube intitulée « Les terres rares », réalisée par la magnifique chaîne YouTube Le Réveilleur, qui a été publiée le 12 octobre 2021.
Il est indéniable que l'extraction des terres rares qui a eu lieu en Chine pendant les 20 dernières années aura des conséquences environnementales et sanitaires importantes. L'exploitation artisanale et illicite des terres rares laisse des territoires dévastés et souvent les produits chimiques utilisés sont simplement abandonnés sur place et peuvent contaminer l'aval. Mais les effets négatifs ne sont pas caractéristiques de la seule exploitation artisanale. L'immense mine de Bayanobo est l'un des pires sites miniers du monde. Les rejets miniers s'y accumulent à l'air libre et les effluents sont simplement rejetés dans un barrage de retenue où les éléments toxiques s'accumulent. Les populations alentour y sont exposées par voie aérienne via des poussières ou par l'eau, puisque les nappes phréatiques et l'aval du site sont contaminés. Les éléments les plus préoccupants sont les fluorures, l'arsenic et d'autres métaux comme le mercure, le plomb et le sélénium dans l'eau, ou le cuivre, le zinc, le cadmium et le manganèse dans l'alimentation. De multiples effets sur les cultures, l'élevage et la santé humaine sont documentés. Il ne fait pas de doute que la capture du marché mondial de terres rares par la Chine s'est faite au prix de dégradation environnementale et de grandes souffrances pour les populations locales. Et les matériaux extraits à ce prix se trouvent dans nos écrans, nos téléphones portables, nos jouets, nos ampoules et bien d'autres applications.
On a bien conscience que c'est inévitable lors de la production des composants d'un ordinateur. Mais si, est-ce que ça serait possible de diminuer ces effets ? Un point clé, qui a été un peu le point de départ de notre projet, c'est que c'est bien la fabrication de l'ordinateur et non l'utilisation de l'ordinateur qui est à l'origine de la plupart de ces effets néfastes. La fabrication est en effet responsable, selon plusieurs sources, à environ 60% de l'impact écologique d'un ordinateur contre 30% pour l'utilisation. Dès lors, une idée clé qui est ressortie dans beaucoup de recherches académiques est qu'il fallait diminuer la fréquence de remplacement des ordinateurs ou, du moins, éviter de remplacer des ordinateurs en entier. De plus, il faudrait peut-être repenser à l'organisation de la société autour des ordinateurs. Ainsi, dans la partie suivante, Elena va vous présenter plusieurs idées, certaines qui reposent sur des travaux précédents et d'autres qui sont nouvelles afin de pallier à ce problème.
La première idée que l'on vous propose, qui est un peu l'idée phare de notre projet, est la modularité. À l'instar des ordinateurs fixes, tous les ordinateurs devraient être modulables, c'est-à-dire que tous les composants devraient être facilement remplaçables. Pour que cela soit plus clair, on va prendre l'exemple de Lucas. Lucas utilise quotidiennement son ordinateur, que ce soit pour jouer, pour prendre des notes ou pour voir des vidéos. Malgré cette utilisation quotidienne, cela fait déjà 20 ans qu'il utilise le même ordinateur portable. En effet, dès qu'une des pièces de son ordinateur portable est défaillante, il la remplace tout simplement par une autre. Son ordinateur est un PC modulable. Par exemple, lorsque son processeur ne fonctionne plus, il s'en procure un sur Internet, trouve un guide de réparation fourni avec l'ordinateur et le remplace. Cette possibilité de remplacer les différentes parties du PC a rendu son PC plus durable. La deuxième idée que l'on vous propose est de créer des infrastructures gérant les problèmes liés aux ordinateurs. En cas de problème ou à la fin de vie du produit, l'utilisateur y envoie son ordinateur. Soit il est réparé, soit on propose de le réutiliser. Par exemple, prenons François, dont son ordinateur est cassé. Il peut se rendre dans n'importe quel centre de tech pour le faire réparer. Ici, centre de tech définit le centre de réparation des ordinateurs. Pas besoin de renvoyer le produit à la marque, pas besoin de risquer la garantie en tentant une réparation maison, pas besoin de payer une taxe onéreuse pour une simple réparation. Enfin, la troisième idée que l'on vous propose est de se concentrer d'abord sur des usages basiques. On pourrait imaginer que les ordinateurs censés durer 50 ans ne se concentrent que sur des usages très basiques, lecture de fichiers, traitement de fichiers, surfer sur le web, etc. Enfin, seulement si l'utilisateur en ressent un réel besoin, il peut ajouter de nouvelles fonctionnalités avec des modules supplémentaires. Ceci permet donc à l'utilisateur d'accéder à des usages non basiques, comme lors d'une utilisation multimédia poussée, jouer aux jeux vidéo ou lorsqu'il doit faire du montage vidéo. Pour vous donner une idée, avec le même ordinateur, une personne pourrait l'utiliser chez elle pour simplement regarder des vidéos, consulter des mails, écrire des documents. Lorsque celle-ci exerce son travail, elle pourrait avoir accès à un module lui permettant de faciliter le montage vidéo, qui est son métier.
Maintenant, je vais vous présenter l'auto-évaluation du projet. Donc, il s'agit d'adopter une approche critique sur nos idées via des outils qu'on a découverts au long de l'UV DS03 ce semestre. Donc, tout d'abord, on va vous présenter un effet rebond. Donc, l'effet rebond, c'est un effet négatif qui va intervenir à l'inverse de l'effet qu'on cherchait à créer avec le projet. Donc, ici, c'est une augmentation de la consommation des ressources alors que le projet cherche à la diminuer. Donc cet effet rebond négatif intervient donc suite à la démocratisation du produit, donc ici l'ordinateur qui pourrait durer 50 ans. Et cet effet rebond est lié à la modularité, et en effet il est probable qu'il y ait une partie des consommateurs qui remplacent ces composants alors que ce n'était pas nécessaire. Par exemple, réparer son ordinateur d'une façon anticipée en remplaçant un module alors que celui n'est pas défaillant. Et on peut imaginer qu'il y a des utilisateurs qui font ça pour éviter que la pièce tombe en rade, par exemple, ou alors pour se rassurer que l'ordinateur n'ait pas de problème. C'est un phénomène qui s'observe déjà sur les PC, comme on l'a dit, qui sont fixes, avec, ou alors tout simplement des utilisateurs qui essaient de garder vraiment leur machine au meilleur niveau possible de performance, et donc ça coûte beaucoup en consommation de composants. Donc deuxièmement, on va se baser sur le livre « Héritage et fermeture, une écologie en démantèlement » écrit par Emmanuel Bonnet, Diego Landivar, Alexandre Mon. On a imaginé quelles infrastructures pourraient être amenées à fermer suite au développement de l'ordinateur de 50 ans. Le développement massif de l'usage de l'ordinateur 50 ans conduirait les fabricants actuels d'ordinateurs et de composants électroniques à cesser leurs activités ou à la rediriger. En effet, les ordinateurs personnels fixes et portables actuels seraient possiblement tous remplacés par l'ordinateur de 50 ans. Pour mitiger cet impact de fermeture, on peut imaginer qu'une partie des emplois affectés soit reconvertie dans les centres de réparation dont on a parlé auparavant. Par exemple, d'après les statistiques d'Ibisword, nous comptons seulement aux États-Unis environ 15 000 salariés et 300 compagnies dans la fabrication d'ordinateurs. Et cette statistique est visible sur le site d'Ibisword si vous voulez aller voir vous-même. Enfin, nous avons passé au crible notre projet en se basant sur les 7 péchés du greenwashing. Donc, pour un peu de contexte, la pratique du greenwashing consiste à tromper les consommateurs afin de faire croire que son produit est plus écologiquement responsable qu'il ne l'est vraiment. Il y a un vice de compromis caché dans notre produit. Le principal aspect de low-tech de notre projet est l'ordinateur de base, parce que pas nécessairement ses modules. Il y a un risque que les modules produits par les acteurs tiers ne soient pas aussi soutenables qu'on le voudrait et qu'ils nuisent au but du produit. Par exemple, on peut imaginer que des fabricants produisent des modules de cartes graphiques très puissants, très onéreux, mais qui s'usent très vite et qui doivent être remplacés tous les deux ans. Lié à cela, il y a aussi un vice de non-pertinence, donc, c'est-à-dire une prétention exacte mais inutile ou insignifiante. Le PC de base respecte bien tous les principes de la low-technisation et de durabilité. Mais les modules qui permettent son usage, qui sont essentiels, et les modules plus poussés, ne le sont pas forcément. Si on revient par exemple aux cartes graphiques, cela ne respecte pas forcément la soutenabilité et le respect de l'environnement, étant donné qu'il faut en fabriquer assez souvent. Enfin, on va parler du vice de moindre mal. C'est une prétention qui est exacte, mais sur une catégorie de produits qui est globalement déjà nocif. Suite à des calculs effectués en comparant les émissions de CO2 lors de la fabrication des ordinateurs portables, et ceux de 50 ans sur une durée de 100 ans, nous constatons que lors de la fabrication, les émissions de CO2 sont réduites de 10 fois lorsqu'on utilise l'ordinateur de 50 ans. En réduisant la fréquence de fabrication des ordinateurs, on diminue donc l'impact de la phase de fabrication des ordinateurs sur l'environnement. Cependant, l'impact de l'utilisation, même avec une démarche réfléchie et low-tech, reste élevé, jusqu'à 35% de l'impact écologique d'un ordinateur durant son cycle de vie.
Merci à tous les trois pour votre présentation et notamment pour le travail d'évaluation que vous avez fait à la fin, qui montre effectivement que, même si l'idée est intéressante et a des aspects positifs, il y a également encore pas mal de choses à travailler de ce côté-là. Peut-être pour rebondir d'ailleurs sur ce dont tu parlais, Nils, là, sur la modularité. Hein. Une question ici qui était posée, c'était le Lucas de la petite histoire que Léna nous a racontée. Là, il a envie de jouer aux jeux vidéo et donc à un moment il va ajouter le module carte graphique qui va bien et qui va lui permettre de jouer à des super jeux vidéo. Donc en quelque sorte, voilà, vous l'avez soulevé un petit peu, mais est-ce que vous imaginez des pistes pour contenir un petit peu ça, par exemple, hein, je sais pas, hein, c'est une idée qui m'est venue en lisant la question, mais est-ce que à un moment quelque chose dont vous n'avez pas du tout parlé là qu'il faudrait peut-être adresser, c'est la partie logicielle. C'est-à-dire peut-être que votre ordinateur qui dure 50 ans, il viendrait aussi avec des logiciels en quelque sorte assez modestes. Donc là, ça pourrait être, si on garde l'exemple de Lucas, des jeux vidéo assez modestes ou des applications assez modestes qui, de fait, ne nécessiteront pas de ajouter toujours des cartes plus performantes ou que sais-je. Je ne sais pas si vous voulez réagir à cette question-là.
Donc dans l'exemple du jeu vidéo, c'est très important et c'est très pertinent parce qu'étant donné, on peut voir que le jeu vidéo, c'est un domaine où ça évolue très rapidement et que la puissance de calcul qui est demandée évolue énormément. Et donc, si on a un ordinateur qui est 50 ans, c'est beaucoup plus difficile de garder une qualité qui suit ce niveau de calcul. Mais déjà, je pense que une piste de réponse qu'on peut apporter, c'est le moyen de consommation des utilisateurs. Qu'il faut que cette mentalité qui ferait qu'il change un petit peu, qu'il évolue. C'est-à-dire que, par exemple, quand on pense de jouer aux jeux vidéo, on a forcément envie de se dire qu'on va jouer dans les meilleures qualités possibles. Mais si, par exemple, on va se dire qu'on peut essayer de jouer avec un ordinateur qui ne coûterait entre guillemets que 500 euros, ce qui est quand même déjà beaucoup, on pourrait essayer de se mettre dans une optique qu'on va essayer de jouer dans des conditions qui sont plus modestes, mais qui sont quand même agréables. Et donc, peut-être que dans cette optique, déjà, ça serait plus facile d'essayer de garder des composants plus longtemps. La deuxième piste qui est possible, comme vous l'avez évoqué, c'est les logiciels qui sont libres et plus sobres. Et pour ça, on peut penser, par exemple, au système d'exploitation Linux. Il y a plein de distributions qui peuvent convenir à plein de besoins différents en fonction de l'utilisateur. Et malgré le fait que pour les jeux vidéo, ce n'est pas encore ce qui est le plus optimisé, c'est beaucoup plus facile de faire tourner Linux sur une machine qui est peu puissante que sur que Windows, par exemple.
On pourrait imaginer même une distribution Linux dédiée à ces ordinateurs qui assure leur fonctionnement sur le long terme. Vous avez parlé un petit peu de la logique de fermeture. Je me permets de corriger le nom donc d'Alexandre Monin que tu as écorché tout à l'heure. Alexandre, si tu nous écoutes, voilà, c'est corrigé à présent. Tu nous as parlé de la logique de fermeture, Nils, derrière le fait que si ce projet fonctionnait, eh bien effectivement, il y aurait un changement dans la structure de l'industrie. Peut-être même avant ça, est-ce que vous avez imaginé des leviers qui permettraient, alors ça ne faisait pas forcément partie de votre projet, hein, mais qui permettraient de convaincre ou d'amener aujourd'hui les fabricants, alors soit actuels, soit de nouveaux acteurs sur le marché, à s'enclencher un peu dans votre projet? Qu'est-ce qui ferait que demain, si je suis, je sais pas quoi, moi, un constructeur d'ordinateur Dell, je regardais, ou Apple, je regarde ce qu'il y a devant moi, qu'est-ce qui fait que je pourrais changer ma façon de faire? Et où, si je suis un constructeur, j'ai oublié le mien, mais c'était PC Linux FR, je sais pas quoi, je me souviens plus, qu'est-ce qui fait que je vais m'engager dans cette voie? Vous avez des éléments autour de ça?
Alors, c'est une très bonne question. En effet, vu que durant le projet, le point clé sur lequel on s'est concentré, c'est pas forcément de savoir toutes les démarches pour réaliser le projet sur tout un ensemble d'entreprises. On est en train d'y répondre un peu à chaud. Mais ce que je dirais, c'est que, en tout cas, il semblerait peut-être nécessaire une certaine forme d'action politique. Je m'explique. Par exemple, récemment, il y a l'Union européenne qui a obligé tous les smartphones et même d'autres appareils électroniques à changer tout leur port sur ces smartphones en port USB-C, ce qui a énormément, je ne vais pas dire de gros mots, mais ce qui a énormément embêté Apple, on va dire. C'est peut-être une première piste à avoir au niveau politique, etc., s'il n'y aurait pas, alors, dans la version plus directe, des lois directement, ou bien peut-être, pour commencer plus doucement, des intérêts financiers, par exemple, ou des réductions d'impôts, que sais-je.
Ok, ouais. Donc effectivement, coupler ce genre de projet avec des décisions de la puissance publique, et typiquement, pourquoi pas au niveau européen. Allez, peut-être une dernière question. Je ne suis pas sûr que vous y ayez pensé à ça, mais je la trouve intéressante, et voilà, comme ça on terminera là-dessus. Est-ce que vous avez, sur la logique de remplacement des composants, hein, et je vous en pose deux, puisque comme ça vous pourrez en répondre qu'à une des deux si vous voulez. Sur la question des composants et de la modularité, vous avez bien mis en exergue que ça résolvait une partie du problème et que ça en adressait d'autres. Moi, je me demande, donc première question, dans quelle mesure on pourrait s'attaquer aussi à la réparabilité, voire même à l'auto-réparabilité, comme on a vu un peu dans le projet EcoCAD de ces composants, ou au moins localement, c'est-à-dire à un moment, ok, bah mon disque dur est cassé, ou je sais pas, ou un bout de câble, etc. Est-ce qu'il y a des éléments que je pourrais récupérer, recycler moi-même? Est-ce que je serais capable, in fine, de construire des petits bouts de mon ordinateur, ou de réassembler des bouts au moins à une échelle locale, par exemple? Donc ça pourrait être un premier type de question. Donc ça, plutôt volet positif. Et volet négatif, est-ce que vous avez anticipé le fait que Donc, vous allez promouvoir des composants très durables, des disques durs qui durent longtemps, des cartes graphiques solides, etc. Mais évidemment, on pourrait imaginer que d'autres promoteurs moins bienveillants viennent s'insérer dans le standard et proposent également une carte graphique compatible ordinateur qui dure 50 ans, mais qui, elle, soit pas durable, un peu pourrie, qui casse rapidement, etc. Comment est-ce qu'on pourrait adresser ce genre de choses ? Voilà, vous êtes libre de répondre à l'une, l'autre de ces questions ou aucune.
Allez, alors, une question qu'on s'était un peu posée dès le début, c'était un peu comme le problème du bateau de Thésée. Si on remplace tous les composants d'un ordinateur, est-ce que celui-ci est le même ordinateur ? Alors forcément, c'est une question un peu compliquée vu que des philosophes se sont battus dessus depuis des milliers d'années. Mais en tout cas, ce qu'on essayait de viser le plus possible, c'est à l'instar des ordinateurs, de bureau actuels, c'est de remplacer au niveau du composant et peut-être pas à l'intérieur des composants. Je m'explique. Un ordinateur peut être composé de ce qu'on appelle une carte mère, donc d'un processeur, ce qu'on appelle une carte graphique, etc. Notre idée, c'était plus de faire la modularité à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de voir certains diagrammes électroniques, électroniques de puces ou de cartes mères. On s'est vite rendu compte que c'était impossible pour la personne lambda d'analyser très facilement cela. C'est aussi pour cela qu'on s'est demandé si ça n'était peut-être pas intéressant d'avoir un guide fourni avec ces ordinateurs qui pourraient peut-être donner des pistes de réparabilité, voire même, ça se fait parfois, des guides entiers sur quelle chose réparer, à quel endroit, quel transistor changer, etc. etc. Afin pour que le consommateur ait au moins la possibilité de pouvoir le réparer soi-même.
Ok, donc avoir au moins plus de compétences, peut-être en électronique ou oui. ce genre de choses, dans le cadre de notre société. Nils ?
Et pour compléter ce qu'a dit Leonardo, je pense que déjà, quand on regarde le niveau actuel de possibilité de réparation d'un ordinateur portable, c'est très compliqué. Et on a vu que, par exemple, Apple, pour attaquer personne, même si pour l'autre composant c'est très compliqué, Apple s'est retrouvé dans pas mal de polémiques en termes de réparabilité, où c'était très compliqué de chez une store de se faire juste remplacer un composant et qu'il fallait aller dans des endroits un petit peu chez des réparateurs pas du tout officiels pour essayer de remplacer juste une barrette de RAM. Donc si on peut déjà identifier au niveau de quel composant est la panne, de si c'est juste un problème de câble, de connexion, ça sera déjà une grande avancée pour les ordinateurs portables modulaires.
Je partageais mon expérience la semaine dernière, mais ne serait-ce que pour ma machine à laver, voilà, c'était très compliqué de n'en réparer qu'un morceau. Donc effectivement, un peu plus d'ambition sur les ordinateurs, mais c'était un petit peu le but de ces projets aussi. En visant un peu plus loin, eh bien, ça nous force à nous poser des questions un peu poussées. Et peut-être que s'il y a des choses comme ça qui émergent, eh bien, ça permettra ensuite de tirer d'autres techniques. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ?
On voulait vous remercier du coup pour nous avoir accompagnés durant tout ce semestre, et on voulait aussi remercier tous les utilisateurs de la plateforme du réseau social Mastodon qui avaient réagi à notre post sur le projet de manière très enthousiaste, et ça nous a beaucoup motivés à continuer le projet jusqu'à son terme.
Ok, un merci à eux, un petit coucou aussi à Christophe Mazouti et à Jean-Bernard Marcon qui vous ont aidé sur les premières phases de vos travaux. Je vous propose qu'on arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.